France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous échangeons avec Antoine Fleifel sur la question des diasporas, celle de l'émigration des chrétiens d'Orient dans des contextes de crise, de violence, de problèmes économiques ou culturels, illustrant l'exil hors des territoires d'origine. J'ai beaucoup aimé l'ouvrage collectif qui vient de sortir aux éditions de L'Harmattan et que vous avez dirigé avec Charbel Malouf, qui est aussi un habitué de nos rendez-vous dominicaux. Rendez-vous qui, je le rappelle, sont indispensables à la compréhension de notre présent et, j'ose le dire, procurent une certaine élévation du quotidien. Bonjour Antoine.
Bonjour Sébastien.
Votre approche est simple et progressive. Vous partez de la géopolitique, puis vous vous orientez par la théologie, avant de terminer par une approche mystique qui est véritablement le cœur de votre élément. Alors une première question, c'est pourquoi se colloquent les chrétiens d'Orient en diaspora? Dispersion, dilution, intégration, structuration, point d'interrogation. Une question importante?
Pour l'Institut chrétien d'Orient, c'est une question très importante, vu que nous sommes en quelque sorte un phénomène diasporal de chrétiens originaires du Proche-Orient qui font des travaux universitaires sur ce qu'il se passe. Mais aussi pour la problématique en soi, lorsqu'on parle aujourd'hui des chrétiens d'Orient, la diaspora fait partie de l'analyse et de la compréhension de cette réalité qu'on appelle chrétien d'Orient. Car un peu moins de la moitié vit désormais en diaspora. Et parfois il y a plus de communautés ou de membres de communautés spécifiques dans la diaspora que sur les territoires d'origine. Et ce phénomène n'est pas un phénomène très récent, c'est un phénomène qui date du 19e siècle. Les différentes circonstances et vicissitudes traversées par les communautés ont fait que cette diaspora s'est étoffée et qu'elle joue désormais un rôle et dans les lieux où elle existe et un rôle pour les territoires d'origine qu'elle soutient de différentes manières, soit financières, soit politiques, soit culturelles et dont elle est une expression partout dans le monde.
Alors vous avez dirigé cet ouvrage, mais vous êtes aussi l'auteur d'un article, Diaspora et Identité. Vous évoquez 8 millions de chrétiens d'Orient à vivre en dehors du territoire originel. Comment on peut arriver à une telle statistique? Et quelle est donc cette proportion? Vous avez évoqué moitié-moitié, voilà, ce qui comprend tous les pays du Levant, si je comprends bien.
Ouais, il est toujours très compliqué d'avoir des chiffres très précis. Néanmoins, il y a de plus en plus de spécialistes qui évaluent, qui étudient. Et il faut savoir faire la part des choses, car parfois les nombres des chrétiens d'Orient sont largement surévalués. Mais je me suis appuyé sur des recherches démographiques qui permettent de donner un chiffre approximatif. On évalue à 12 millions, 13 millions de chrétiens au Proche-Orient, y compris l'Égypte, et à 8 millions dans la diaspora, notamment en Amérique du Sud ou en Australie, sans oublier bien sûr la France, mais aussi l'Europe et l'Afrique. Et de toute façon, même si on se trompe, même si on en est à 5 ou 10%, le nombre reste considérable. Entre le tiers ou un peu plus 40% vivent à l'étranger. Et cela, nous le savons depuis plusieurs décennies, notamment à travers leurs activités et ce qu'ils font.
Alors sur ces grandes proportions, il y a aussi des inégalités. Vous avez mentionné l'Égypte donc avec les Coptes, oui, qui représentent à elles seules près de 90% de cette population chrétienne d'Orient, en Orient, ouais, et le Liban, peut-être.
Tout à fait, on dit que 2 chrétiens sur 3, voire même un peu plus, sont coptes d'Égypte. Et d'ailleurs, la diaspora la moins développée, qui contient le moins de monde, c'est la diaspora de l'église copte orthodoxe. Parce que les autres pays qu'on appelle aujourd'hui Liban, Syrie, Palestine ou Irak, ces pays qui faisaient partie de l'Empire ottoman, ont subi les conséquences de tous les séismes qui ont touché l'Empire ottoman, surtout vers la fin du 19e siècle, avec les massacres hamidiens par exemple pour les Arméniens, mais n'oublions pas les massacres du Mont Liban et de Damas. Alors qu'il y avait ces événements dans ce côté de l'Empire ottoman, l'Égypte du Khédive connaissait une certaine stabilité qui ne poussait pas les chrétiens à partir en masse. Et puis il y a eu la présence anglaise à partir des années 80 du 19e siècle, alors que de l'autre côté, on était en train de préparer plusieurs génocides arméniens, assyro-chaldéens, sans parler du déplacement des Grecs pontiques et de la famine du Mont Liban. Les contextes sont différents. Ces contextes font que les communautés qui ont été les plus touchées par les circonstances que je viens d'évoquer, ont pris la route du départ, alors que les communautés qui pouvaient toujours demeurer et qui vivaient dans des contextes plus stables sont restées sur place. C'est le cas donc des Coptes orthodoxes en Égypte. Mais si on prend l'exemple d'une communauté qui a été particulièrement poussée à partir, je pense par exemple à l'église assyrienne en Irak, qui ne compte plus aujourd'hui grand monde et qui a été témoin de plusieurs événements historiques, dont le Saïfo, le génocide, mais aussi les événements malheureux des années 30 au XXe siècle.
Un exil massif et continuel depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Vous avez mentionné les massacres du Mont Liban, je crois qu'on est vers 1860. Nous avons fait une émission sur ce sujet-là avec l'attitude héroïque de l'émir Abdelkader qui a sauvé des milliers de familles chrétiennes à Damas. Ces premiers exils, les gens vont où? J'ai l'impression qu'on va plutôt vers le continent américain et l'Amérique du Sud, Amérique centrale.
L'Amérique du Sud offrait beaucoup de possibilités. Il y a même des membres de ma famille qui sont allés et les histoires sont une tradition dans ma famille. Effectivement, c'était un lieu économique qui offrait beaucoup de possibilités. On prenait le bateau, on y allait. Parfois on rentrait, parfois on rentrait pas, mais comme d'habitude et dès le début, les Libanais avaient le souci, ceux qui partaient à l'étranger, en diaspora, de ceux qui restaient sur place et la tradition d'envoyer de l'argent et de le soutenir et éventuellement de faire tout ce qui est possible dans les lieux d'accueil, c'est une tradition très ancienne qui date depuis cette époque.
On peut mentionner aussi les églises assyro-chaldéennes, syriaques, de l'Inde syriaque, du nord de l'Irak, qui sont allées dans la région de Chicago au tournant du début du XXe siècle. Vous posez la question sur le déracinement, finalement. Est-ce que plus on est loin du territoire des origines, est-ce que plus vite on oublie finalement la langue, la liturgie, la culture d'origine?
C'est une question qui est très complexe et c'est pour cela que dans mon article, je soulève la question de l'identité. Ce déracinement se vit de manière très différente selon les communautés et selon les contextes. Je me souviens à quel point on se plaignait dans l'église maronite que les premières vagues d'émigration qui sont parties en Amérique du Sud sont en quelque sorte perdues parce que leurs noms ont été transformés en des noms plus conformes à la prononciation locale. Leurs paroisses sont devenues des paroisses latines. Et effectivement, il n'y avait pas de structure ecclésiale maronite digne de ce nom à la fin du 19e et même durant une bonne partie du 20e siècle pour garder des liens avec le territoire d'origine. Mais cette question diasporique évolue depuis. Elle n'est toujours pas la même. Aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, les moyens de communication, de réseaux sociaux, d'études, ces diasporas se réveillent à de nouvelles identités. Surtout lorsque dans différents pays, la question identitaire ou la question sécuritaire ou la question économique est compromise ou est en état de crise, on se repose les questions des origines. Et c'est là qu'une nouvelle quête d'identité se retrouve. Mais attention, telles les identités des chrétiens d'Orient en Orient, telles qu'elles sont construites et qu'elles sont le fruit des orientalistes au XIXe siècle ou des différents nationalismes arabes ou autres au XXe siècle avec les guerres qui les ont opposées aux camps différents, que ce soit dans le cadre de la guerre froide ou de la guerre du Golfe, aussi en diaspora, on forge des identités, on crée des identités. Parfois même, on a du zèle pour les traditions, pour les origines, plus que ce qu'ont les gens qui sont sur place. Un zèle à travers la langue, le syriaque. Bon, l'arménien, c'est un peu spécial. On connaît les liens entre la langue arménienne et la communauté arménienne, mais le syriaque ou l'assyrien ou le copte ou toutes ces langues qui peuvent rappeler un passé qui, même s'il n'existe pas, nourrit une représentation et donne un sens et une identité. Et c'est dans cela que l'étude des diasporas est aussi passionnant et fascinant.
Alors, je vous cite, vous mentionnez un synode patriarcal maronite en 2005. L'église maronite s'est transformée en église mondiale dont le nombre des fils en expansion dépasse celui de ceux résidant au Liban et dans le territoire patriarcal. Cela constitue pour l'église maronite un nouveau défi, celui de créer sa mission et sa vocation dans le monde d'aujourd'hui et de transformer son expansion dans le monde en source d'espérance et de force pour elle et ses fils. Peu d'églises sont capables d'avoir ce regard de projection vers l'avenir.
Tout à fait, c'est une vision pertinente, même si on en attend l'application et le déploiement, mais que cette réflexion existe est un élément fondamental pour la théologie et pour la vision qu'a l'Église de sa mission dans le monde. Et je donnais cet exemple dans mon article sur l'église maronite, qui est un excellent exemple, mais qui devrait constituer, à mon sens, la ligne de mire de toutes les églises dans leur manière de se concevoir. Aujourd'hui, c'est vrai que nos églises sont antiochiennes, sont alexandrines, mais il n'y a plus d'églises antiochiennes. Aujourd'hui, les églises sont mondialisées. Il suffit juste de voir leur expansion dans le monde et les structures différentes avec les cultures différentes qui y existent désormais. Être maronite de Paris est complètement différent d'être maronite de l'Océanie ou de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud. Il y a des nouvelles manières d'être dans cette identité. Et cela est aussi la catholicité de l'Église. En tant que théologien, je comprends cela comme un nouveau lieu théologique pour ces églises. La question fondamentale que se posent les différentes communautés chrétiennes en Orient depuis des décennies est la suivante. Comment témoigner de Jésus-Christ dans cet Orient? Quel est le Christ qu'on voit apporter? Certes, on apporte la modernité, on apporte la culture, on apporte l'éducation, la francophonie, le dialogue, tous ces beaux discours qui ont des contenus réels ou qui ont eu des contenus réels. Mais au cœur de tout cela, dans la vocation du chrétien, il s'agit d'apporter le Christ. Et pour comprendre comment l'apporter, à partir d'une réflexion théologique contextuelle, et le contexte aujourd'hui est mondial, il faut se poser la question du témoignage dans les différents lieux, parce que les différents lieux deviennent aussi des endroits où se déploie cette manière unique de témoigner du Christ à travers les communautés locales.
Antoine Fleffel, c'est la théologie contextuelle dont vous parlez, qui est le fer de lance de votre pensée, c'est-à-dire comment on adapte la théologie au contexte de vie, tout simplement.
Comment le discours théologique peut donner à la fois une réponse pertinente à ces questionnements à partir de ce qui est vécu dans le contexte. Les églises orientales ont de très belles traditions. On les connaît tous et on les aime tous et on fait tout pour les préserver et pour les mettre en valeur. Saint Ephrem, Saint Grégoire de Nice, la liturgie, la prière, la musique sacrée, tout cela est très beau. Mais la réalité est du Christ vivant qui agit dans cette communauté, elle est ici et maintenant. Elle n'est pas dans toute cette tradition. Cette tradition nous donne un goût, un sens, mais un sens donc là où partir. Mais le Christ vivant existe maintenant et les réflexions et les actions des chrétiens d'Orient aujourd'hui doivent découler de ce qui est vécu maintenant. Et qu'est-ce qui est vécu maintenant? Nous sommes dans des contextes de crise, nous sommes dans des contextes de diaspora, nous sommes dans des contextes de guerre, nous sommes dans des contextes d'effondrement économique, nous sommes dans des contextes de reformulation des relations internationales. Un nouveau paradigme mondial est en train d'émerger. C'est à partir de cela que les chrétiens d'Orient et les différentes églises devraient penser à leur vocation. Quelle est leur vocation au sein de ça? Certes, elles transmettent des choses très belles, tant mieux. Tout le monde a son histoire, chacun a son récit et ses récits sont enrichissants. Mais quel est le vécu actuel? Quel est le message actuel? Comment peuvent-ils témoigner aujourd'hui où ils sont dans leurs différents contextes, en diaspora ou sur place, avec ce qu'ils sont en train de vivre et avec les moyens qui leur sont donnés? Comment, à partir de tout cela, peuvent-ils toujours transmettre la lumière de celui qui, normalement, les a tellement séduits par sa beauté à l'aube du christianisme?
Et quelle est, vous, votre vocation dans ce nouvel univers?
En tant qu'universitaire, à l'Institut chrétien d'Orient, nous faisons des études, nous mettons en valeur ce patrimoine et cet héritage, et nous réfléchissons l'avenir en nous inspirant du passé, en espérant un avenir meilleur pour les chrétiens d'Orient et pour tout le monde, bien sûr. Nous le faisons à travers notre réflexion, que nous mettons à disposition de toutes les personnes qui veulent bien réfléchir avec nous, que ce soit à travers nos cours, à travers nos séminaires, nos journées d'études, nos publications, nos colloques. Et nous avons sur ce plan fait beaucoup de choses et nous avons encore beaucoup à faire avec notamment plusieurs partenaires universitaires de différents pays européens et en Orient.
Est-ce que votre foi a changé, Antoine Fleifel, depuis que vous êtes confronté à cette réalité diasporique vous-même ?
Alors la foi ne change pas puisque Dieu ne change pas, il reste toujours le même, mais ma manière de comprendre toutes ces choses a bien sûr beaucoup évolué, elle est beaucoup plus claire. C'est un chemin qui est très long, qui dure depuis 30 ans, et qui a traversé diverses étapes. Mais aujourd'hui, la question à laquelle je suis le plus sensible, c'est l'autre dans tout cela. Parce que étudier la diaspora et les territoires d'origine, avec toute la diversité qui se trouve sur ces deux lieux, me pousse à être avec un autre qui est le musulman, qui est le juif, qui est l'agnostique, l'athée, qui est celui qui porte différentes idéologies ou visions politiques, et à l'université, dans le monde académique, cela fait des années que nous sommes versés sur la question de l'autre, qui est l'autre, s'ouvrir à l'autre, accepter l'autre. Depuis des années, je répète la belle phrase de Mgr Joe Schroeder, « L'autre me complète ». Mais je constate à travers ce chemin qu'il y a encore un moyen d'aller davantage vers l'autre. C'est, premièrement, en allant vers l'autre, me rappeler que moi aussi je suis un autre par rapport à lui, et que si je veux vraiment aller vers lui, il faut que j'arrête de le voir comme un autre, mais que je le vois comme moi-même. Et là, il y a tous les mystères de la chose. Et je ne pourrais pas le voir comme moi-même, sinon si je le regarde avec les yeux de Dieu, et si je vois Dieu en lui, comme il est en moi, et que si je vais vers ses blessures, même si ses blessures me blessent, même si ses craintes s'opposent à moi, mais essayer de me voir moi-même à travers lui. Et là est tout le défi. Et lorsque je rencontre des musulmans, ou des gens d'autres églises, ou d'autres horizons, et que je m'ouvre à eux, au lieu de commencer à les mettre dans des catégories, je trouve à quel point je peux me voir en eux.
Et c'est là où se trouve le chemin de la mystique dont nous parlions tout à l'heure ?
Ça, c'est certain. La théologie contextuelle me mène à effectuer des réflexions multiples, qui sont connues depuis que j'écris sur ces questions, la géopolitique des chrétiens d'Orient, les diasporas, les extrémismes religieux, qui font tous partie du contexte et qui sont nécessaires pour avoir une vision claire, pour une feuille de route théologique. Mais si cette feuille de route théologique ne prend pas source dans le cœur, si la raison n'habite pas le cœur, si toute cette action n'est pas éclairée par la lumière divine, elle ne sera qu'une autre action comme les autres, elle ne sera que mienne, et dans ce sens, elle n'a pas beaucoup de poids, mais si elle vient du cœur et de la lumière de celui qui illumine le monde, alors tout changera.
Je voudrais citer le père Jean-Maurice Fier qui a écrit sur les Syriaques, un grand historien de cette communauté, « Quand on lutte pour survivre, on n'écrit pas l'histoire. » On n'est toujours pas sorti de ce cycle de la survie, justement.
Mais je n'envisage pas les choses comme une lutte pour la survie. J'aborde les choses avec beaucoup de confiance. Vous m'avez emmené sur le domaine personnel avec beaucoup de confiance parce que je suis convaincu que Dieu est le maître de l'histoire. Bien sûr, c'est une parole qui porte beaucoup de scandales avec toutes les injustices que nous considérons comme telles, avec tous les massacres, avec tous les malheurs. Comment le considérer comme tel ? Cela est une démarche extérieure. Intérieur. Mais par contre, à l'extérieur, cela se traduit par un engagement pour l'humain, par un engagement pour la paix, pour le dialogue, pour la justice. Et c'est ainsi que l'intérieur et l'extérieur deviennent un. Et faire ce qu'on fait n'est pas pour survivre, quelles que soient les circonstances et quelles que soient leurs difficultés. Mais c'est tout simplement pour célébrer la vie, quelles que soient les circonstances, heureuses ou malheureuses. Et c'est peut-être ça qui fait la particularité de la foi. Et je suis convaincu, après cette modeste expérience que j'ai, que les conventions, les accords de paix, les traités de paix, la recherche de la paix, la réflexion, la publication, tout ça est important et on doit passer par ça. Mais ce n'est pas là où la différence sera faite. On a l'expérience historique de toutes ces choses. Aucun changement sérieux et réel n'est possible s'il ne vient pas de l'intérieur. Les personnes, nous tous qui voulons changer le monde, on a tous nos idées, on a tous nos critiques, on a tous nos réserves. On veut toujours changer le monde parce qu'il ne nous convient pas. Mais je crois que le seul moyen d'avoir un monde différent, c'est de se changer soi-même. Et une fois que soi-même est changé, tout le reste en découle. Vous pouvez essayer.
Un dernier mot sur le livre, on va citer vos contributeurs, à part Charbel Mahalouf qui a co-dirigé cette revue avec vous, cet exemplaire, Sami Aoun, Samir Arbache, André Daher, Serge Devel sur l'Éthiopie, Joseph Maïla, Tigran Yegavian qui est un habitué de l'émission et Michel Younes. On sent une équipe dynamique, on sent une équipe soudée, chacun a sa spécialité on va dire. Comment vous arrivez vous-même à coordonner toutes ces interventions ?
L'Institut Chrétien d'Orient est par essence un institut pluridisciplinaire. Et nous considérons que la compréhension des chrétiens d'Orient ne peut se faire qu'en les étudiant à partir de tous les angles possibles, qu'ils soient traditionnels ou qu'ils soient profanes, tel qu'on le dit, la géopolitique ou l'histoire, et avec tout ce que cela suppose comme élément critique. Et c'est à partir de cela que cette équipe pluridisciplinaire où vous trouvez l'islamologue, le bibliste, le spécialiste du monde arménien, le sociologue, l'historien, tout cela apporte chacun à partir de son angle un éclairage particulier qui nous permet d'avoir une vision globale beaucoup plus pertinente. Et l'Institut chrétien d'Orient s'inscrit dans le cadre d'une réflexion théologique contextuelle. Nous voulons comprendre le contexte. Il est complexe. Et plus nous sommes nombreux pour le comprendre, mieux c'est pour nous.
Merci beaucoup Antoine Fleifel d'être venu jusqu'à nous en ce dimanche matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les chrétiens d'Orient en diaspora, dispersion, dilution, intégration, structuration. Voilà un ouvrage qui court sur 200 pages à peu près, que je me permets de très chaudement recommander car il offre une multitude de portes d'entrée pour toutes ces communautés avec souvent des introductions historiques donc qui permettent un petit peu de replacer chaque aventure dans son contexte.
Merci beaucoup Sébastien.
Je remercie François Connac pour la réalisation de cette émission, Claire Poinsignon et Manon Houssin pour la technique. Nous retrouvons maintenant le rendez-vous protestant. Solae, bon dimanche.